Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et pour démarrer Cœur de patrimoine, on va s'intéresser à l'IA, entre guillemets, au digital et au patrimoine. Et pour rentrer dans ce monde-là, on accueille Souleymane Jean Galadima. Bonjour Souleymane Jean.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous et de répondre à l'invitation de Cœur de patrimoine. Vous êtes le directeur général de Sapience. On va commencer quand même par une petite fiche d'identité, une petite présentation. Tout le monde ne connaît peut-être pas encore Sapience.
Pas encore. Sapience, en effet, a été lancé récemment, puisque nous avons eu la chance de démarrer nos activités en octobre 2023. Nous devrions terminer l'année avec environ une centaine de millions d'euros d'encours, et nous sommes un des premiers multi-family office, en partie digitalisé, puisque nous associons le digital à une équipe de conseillers seniors, et nous avons trois grandes spécificités. La première, c'est que nous couvrons l'ensemble des classes d'actifs. Nous sommes multi-assets, du côté au non-côté. Nous avons une expérience d'investissement, comme j'ai dit, en grande partie digitalisée. Et enfin, nous avons un modèle économique particulièrement agressif de par notre dimension web et par le fait que nous avons deux très beaux actionnaires, que sont d'un côté Ivesta, qui est un gros multifamily office parisien, et également Mata Capital, qui est une société de gestion de portefeuille immobilière qui nous met à disposition son agrément pour créer nos feeders.
Alors, on va bien évidemment parler gestion de patrimoine, on va regarder le digital, l'IA, un peu tout ça, comment ça peut fonctionner ensemble. Mais pas facile de passer outre le résultat de ces législatives anticipées et toute cette manne, on va dire, de réflexion, de stratégie électorale. Alors, on va pas s'improviser commentateur politique, on va laisser ça à d'autres. Mais par contre, si on le regarde vraiment en termes de stratégie d'épargne, comment est-ce qu'on doit se positionner aujourd'hui? Comment on prend en compte finalement un contexte comme celui-là pour préserver, gérer au mieux, protéger son épargne?
La situation actuelle nous rappelle malheureusement la multiplicité et l'augmentation de la fréquence des crises. C'est une forme de crise politique. On a eu des crises sanitaires, on a eu des crises malheureusement aussi géopolitiques avec l'Ukraine. Et donc ça rappelle aux investisseurs le besoin premièrement d'une vraie diversification. Je suis profondément patriote, mais c'est vrai que la France, ne représentant que 3% du PIB mondial, cette crise en fait nous invite et invite nos investisseurs à avoir une réelle diversification sur un ensemble de pays, sur un ensemble de zones de croissance. Le deuxième aspect, c'est ce que je disais, cette dimension long terme, parce que avoir une stratégie opportuniste quotidienne, voire mensuelle, par rapport à ce qui peut éventuellement arriver sur la fiscalité, c'est malheureusement s'exposer à ce genre de crise. Et donc on aide nos investisseurs, on y reviendra, sur une méthodologie qui leur permet non seulement de sécuriser cette dimension court terme, hein, face aux aléas, aux imprévus, mais surtout d'aller chercher de la performance sur le long terme et ainsi se protéger grâce au temps long face à cette instabilité, bien que sans être un analyste politique ni un économiste, je pense qu'on échappe à un éventuel big bang fiscal au vu effectivement de la constitution de la future assemblée, et c'est un fait effectivement pour rassurer quand même nos investisseurs.
Quand vous dites diversifier, c'est-à-dire que c'est un mot qui revient on va dire quasi au quotidien dans une bonne gestion de patrimoine, hein, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier comme dit le dicton populaire, mais dans ces périodes d'incertitude économique, c'est vrai, il faut regarder géographiquement, il faut regarder sectoriellement, il faut regarder en termes de classe d'actifs, de maturité, enfin c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, hein. C'est pas juste dire je prends 10 actions au lieu de 3. Hein.
C'est exactement ça, on a souvent nous des prospects, des investisseurs qui arrivent avec le relevé de situation d'assurance vie et qui nous expliquent, regardez j'ai 20 lignes donc je suis diversifié. Ça va beaucoup plus loin que ça, on essaie d'avoir une approche la plus déjà rationnelle possible et d'analyser classe d'actifs par classe d'actifs le niveau de corrélation que l'on a entre ces classes d'actifs sur les 10-20 dernières années. Puisqu'effectivement, si on a malheureusement des classes d'actifs qui sont trop corrélées, en cas de chute des marchés, en cas de crise financière, c'est l'ensemble du portefeuille qui sera impacté. Donc le premier niveau, il est purement statistique. Il est comment constituer une allocation qui soit la plus performante possible, ajustée du risque. Et donc typiquement, je prends un exemple, on se rend compte que si on compare le MSCI World, donc l'indicateur, l'indice de capitalisation mondiale, aux infrastructures non cotées, on a un niveau de corrélation qui est inférieur à 1%, donc quasiment décorrélé. A contrario, si vous comparez le private equity ou MSCI World, vous avez un niveau de corrélation qui est plus élevé. Donc c'est ce premier niveau essentiel de corrélation qui est important, et on se rend compte d'ailleurs que les grands investisseurs internationaux, ce qu'on appelle les endowments, notamment les fonds de dotation américains, travaillent énormément sur ces allocations classe d'actifs par classe d'actifs. Une fois qu'on a travaillé ça, il y a la dimension effectivement géographique. avec aujourd'hui des solutions d'investissement, que ce soit les trackers, les ETF, dont Sapiens, par l'intermédiaire d'Ivesta, affirme la pertinence, parce que en quelques clics et sur des montants relativement modestes, on peut s'exposer effectivement worldwide. Mm-hmm. On a cette capacité de pouvoir s'exposer non seulement aux pays occidentaux, mais également aux pays émergents et également domaine par domaine, puisqu'on peut avoir de la tech, de l'industrie et plein de sujets permettant cette diversification.
Mais ça, on l'entend, on le comprend. Après, on sait que quand on investit, on a parfois ce questionnaire à remplir, etc. On nous demande, mais quel est votre profil, quel est... Ça veut dire qu'en fait, toute cette théorie, il faut en quelque sorte la modéliser, soit par typologie d'investisseur, soit par horizon d'investissement. Enfin, comment on fait pour... j'ai envie de dire, aider aussi son client, l'épargnant qui nous écoute peut-être, à se dire, je voudrais peut-être pas rentrer automatiquement dans la même case que mon voisin, mais quand même être un peu guidé. Est-ce qu'il y a un modèle qui m'aide à dire, tiens, moi, je suis plutôt comme ça?
Alors, on a souvent tendance, en effet, dans notre industrie, à aller trop rapidement sur la partie produit et de ne pas passer suffisamment de temps sur la méthodologie et sur, dans un premier temps, quels sont les besoins, les attentes, en fait, de nos investisseurs. Et donc, on a développé, au travers l'expertise d'Ivesta, notre propre méthodologie qui consiste à aider les investisseurs à déterminer leur poche d'investissement. La première, et c'est presque la première poche à réaliser, c'est la poche de sécurité, qui doit être 100% liquide et 100% garantie et qui permet à minima de nuancer l'impact de l'inflation. Ça peut être du compte à terme. On aide nos investisseurs à faire un benchmark des comptes à terme. Ça peut être du fonds euro, ça peut être des fonds monétaires. Une fois qu'on a déterminé cette poche de sécurité, parce qu'elle n'est pas de la même taille d'un chef d'entreprise versus un fonctionnaire.
Bien sûr.
Ensuite, on travaille ce qu'on appelle la poche projet, qui est plutôt un horizon 5-6 ans, qui elle va essayer de battre l'inflation, donc avec un taux de rentabilité interne annualisé de l'ordre de 5 à 6%. Et là, on va pouvoir travailler des sujets comme des fonds obligataires datés, comme les fonds euros qui sont actuellement boosté par les assureurs, ou encore des produits structurés si et seulement si nous sommes en période de volatilité.
D'accord.
Et une fois qu'on a réalisé effectivement ce travail de structuration et d'investissement de ces deux poches d'investissement, on peut enfin aller chercher du long terme avec des sujets non cotés comme en private equity ou également en actions, et ainsi se protéger par rapport aux aléas, parce qu'on a une position long terme, on s'est protégé sur ces projets, on s'est protégé sur ces aléas pour pouvoir investir sur le long terme.
On a donc les grands traits de cette façon dont vous abordez chez Sapiens toutes ces questions-là. Vous avez beaucoup souligné au départ la présence du digital. Je schématisais en disant, est-ce qu'on va mettre de l'IA dans notre gestion de patrimoine? Mais c'est un petit peu la question. Le digital, il survient à ce moment-là affiner, pour moderniser, ou alors c'est juste un gadget?
Alors le digital intervient tout au long du processus. Déjà parce qu'on considère que la phase d'audit patrimonial, avant la stratégie patrimoniale, est importante. Et donc on a développé en accès gratuit sur la plateforme un audit patrimonial, une synthèse patrimoniale, qui permet à nos investisseurs de calculer ce qu'on appelle leur BFR, combien ils dépensent, combien ils gagnent, quelle est leur capacité d'épargne, quels sont leurs projets, et ainsi d'aider à modéliser ces différentes poches d'investissement. Quelle sera la performance de ma poche moyen terme, ma poche projet, et quelle sera également la performance de ma
poche
long terme?
Donc dès le départ de notre relation, entre guillemets, on se connaît quand même un peu mieux.
On se connaît un peu mieux, et on peut projeter ce que donnera une rentabilité de 8-10% à horizon 10-20 ans, parce que souvent les investisseurs ont du mal à modéliser, imaginer ce que sont la puissance des intérêts composés. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on perd beaucoup de temps sur l'administratif et le réglementaire. Donc toute la partie inscription KYC est digitalisée. On perd aussi beaucoup de temps sur la partie suivi de participation. Il n'y a rien de plus insupportable le dimanche à 16h quand on fait sa déclaration d'impôt de ne pas avoir ses documents. Donc l'expérience digitale se fait aussi sur l'accès aux documents, les imprimés fiscaux uniques, le suivi de participation.
Ça, j'ai envie de dire, c'est un cloud bien fait. C'est loin
un cloud
de l'IA,
bien fait, mais avec une dimension forte qui est celle de travailler non seulement sur du côté et du non-côté. Il est complexe, et c'est le travail des développeurs web de Sapiens, d'avoir réussi à digitaliser un portefeuille côté et non coté. Et une fois qu'on a fait ça, on va un peu plus loin, et vous l'avez cité, avec notamment l'intelligence artificielle qui s'est beaucoup développée plutôt sur la partie finance de marché,
d'accord,
mais qui n'a pas encore été tellement utilisée sur la partie conseil patrimonial. Et ce qu'on s'est rendu compte, en utilisant le dernier modèle en fait de ChatGPT, donc ChatGPT 4.0, c'est le niveau de précision que l'on pouvait avoir sur le premier niveau de conseil en fiscalité, en juridique, en enveloppe d'investissement, en surpondérant notamment des bases juridiques et fiscales. Et donc nos investisseurs qui viennent sur la plateforme pour s'interroger sur la fiscalité de l'assurance vie, sur la fiscalité du PEA, sur qu'est-ce qu'un ETF, qu'est-ce que le private equity, qu'est-ce que la dette privée, arrivent à un niveau de question, plutôt un niveau de réponse relativement précis, Néanmoins, il est nécessaire de venir mettre dans la boucle nos conseillers, puisque dès qu'on parle d'allocation, dès qu'on parle d'investissement, il y a un biais cognitif.
Mais ça veut dire que si on trouve déjà un certain nombre de réponses, on va dire, qu'on va qualifier de basiques, mais suffisamment pointues, grâce à cette forme d'IA, ça veut dire aussi que le conseiller derrière, il a plus de temps pour ciseler quelque chose plutôt que de devoir passer son temps à rappeler ce que c'est que l'assurance vie, qu'une clause bénéficiaire, que...
Exactement. Et on a tous un ego plus ou moins important. Et on se rend compte que nos investisseurs arrivent à poser des questions, on va dire, beaucoup plus naïves, des questions beaucoup plus béotiennes, au travers de ce chat, de ce coach patrimonial.
Ça, ouais. Il se dit, là, je peux pas avoir l'air con, c'est un robot, quoi.
Exactement, qu'il aurait posé à des conseillers. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que le conseiller, quand il commence la relation avec nos prospects, c'est déjà les questions que ce prospect a posées, les réponses auxquelles, effectivement, il a pu être exposé et peut de suite rentrer dans le vif du sujet avec cet investisseur.
Eh bien voilà, on en sait un petit peu plus sur Sapience. Merci beaucoup d'être passé dans Cœur de Patrimoine. Souleymane Jean Galadima, donc directeur général de Sapience. À très bientôt.
Merci.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.